Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Appel en cours. En communication.
Allô ?
Alain ?
C'est pas Alain, non, il n'est pas là.
Alain n'est pas là ?
J'entends rien du tout.
Est-ce que Alain est là ?
Oui, mais il n'est pas disponible encore.
D'accord.
Qu'est-ce que je peux lui laisser dire quelque chose ?
Bah, on avait un rendez-vous avec lui, avec France Culture.
Oui, où rendez-vous ?
Chez vous.
Eh ben, attendez, une petite seconde.
Ouais.
Allô ?
Oui.
Alors, vous montez au 4e étage, puis je vous ouvrirai.
Merci.
Voilà.
Alain Lecoultre, c'est une des figures du mouvement homosexuel français qui faisait partie d'une tendance parisienne d'un des groupes de libération homosexuelle qui s'appelait Politique et Quotidien, qui était plutôt d'inspiration trotskiste. Il est venu à Paris au début des années 70 et il va être l'un des fondateurs de la revue Masque qui va paraître en 1979, l'une des revues culturelles et littéraires homosexuelles françaises de la fin des années 70.
Bonjour.
Désolé. Je peux m'habiller, mais je pensais pas que c'était aujourd'hui.
Ah bon ? Bah on a confirmé pour mardi.
Bon, alors si je me souviens bien. Non, bonjour, comment ? Bonjour. Je dois sortir des trucs, des photos, des choses comme ça, c'est ça ?
Oh, si tu les as.
Oui ?
Ouais, tu les as. Ouais. C'est pas trop galère.
Je les ai sortis. Ah bah oui, quand même.
Ah ouais, bien sûr.
Je suis étourdi, mais passe-moi là.
BD, Réinventer le monde, un documentaire de Camille Desombres, réalisé par Gilles Blanchard. Épisode 3, des mémoires révolutionnaires perdues.
Voilà, ça c'est la fameuse grande manifestation de 10 000 personnes, voilà, Beaubourg, en 1981. Donc, je vois parents et je ne sais pas quoi d'homosexuels, donc des parents d'homosexuels.
Parents et
amis d'homosexuels, c'est assez curieux. Puis ça doit être des banderoles de groupe.
Donc, on reconnaît en effet.
Oui, on reconnaît Beaubourg.
Système de ventilation Beaubourg est une foule très, très dense.
Ah ouais, place 10 000, ça m'étonnerait, mais c'est le chiffre qu'on donne traditionnellement. Voilà. Donc, ça, c'est le même jour, mais cette char de masques.
Vous
voilà.
Avez un petit camion promotionnel.
On l'avait loin,
mais
on l'avait.
Ok, plus une fourgonnette.
Une fourgonnette, pardon, oui. Là, c'est moi, d'ailleurs.
Ah oui,
j'étais un peu plus jeune, évidemment.
Avec les lunettes de soleil.
Avec les lunettes de soleil. Eux, ils sont morts du sida, d'ailleurs. Bon, après, voilà, même chose. Et ça, c'est Ingrid Cavan dans une grande fête qu'on avait fait au Palace, qui avait eu un succès absolument énorme. On n'a pas cette image, souvent, hein, de fête. Masque, c'est les trotskistes sérieux, mais bon, c'est quand même bien amusé. Hein. Agréable souvenir. Enfin, je m'en souvenais pas, mais c'est probablement moi qui ai pris la photo, donc... Ah, ça... Voilà, des numéros de masse, ça c'est le premier, historique, bon, qu'on a sorti le 1er mai 79, et qui a, évidemment, on a profité de la manifestation, et du coup, il a fallu en faire un retirage, et donc, pour le décrire, il est rose, pas très original, pour un premier numéro, avec un masque, et puis derrière, quelqu'un qui s'affirme, et qui regarde le monde dans les yeux, voilà. Et Masque, revue des homosexualités, un regard gay sur le monde, ça nous définissait bien, ça. Gay, G-A-I, ouais, on voulait pas G-A-Y américain, puisque gay, c'est un mot français à l'origine. C'est les Américains qui ont mis un Y.
Au début des années 70, le phare allume la mèche et la révolution homosexuelle se répand à travers la France comme une traînée de poudre. Après Paris en 74, les groupes de libération homosexuelle issus majoritairement de l'extrême-gauche, se multiplient. En 77, on en compte une trentaine, notamment à Mulhouse, Brest, Caen, Marseille ou Bordeaux, avec l'intention cette fois de créer un véritable mouvement, comme l'écrit l'historien Mathias Quéré dans son livre qui sème le vent récolte la tapette.
La première perspective d'un GLH, c'est de permettre à ses membres de sortir de l'isolement, de rencontrer des semblables, de discuter, de parler de soi. Donc vraiment, ces groupes, au départ, c'est vraiment des groupes de parole où on va voilà, expérimenter la parole, essayer de trouver son PCR, son prince charmant révolutionnaire. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on va développer une ligne politique pour le groupe et enfin, dans un troisième temps, entamer une action militante. Dans la lignée, finalement, du mouvement féministe, il va chercher à intégrer, finalement, le quotidien, le vécu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'attendre le grand soir. Certes, on veut le grand soir, mais entre-temps, on veut que les choses, elles bougent, que les choses, elles changent et ne pas sacrifier la libération sexuelle sur celle de la lutte des classes.
GLH. Depuis quelques années, des groupes se sont constitués dans les principales villes de France. Un événement considérable. Ni lieu de drague, ni source de bénéfices commerciaux, ce sont des centres d'accueil, de solidarité, d'amitié.
Le rôle d'un GLH, c'est pas simplement de créer un lieu chaud, de rencontre, etc. C'est aussi quelque chose qui interpelle les homosexuels pour qu'on sorte du ghetto. Parce que si, ensemble, on s'organise pas pour parler fort, exiger un certain nombre de choses et s'imposer, il se passera rien.
Il y a vraiment cette envie de bouleverser le monde, de le réduire à néant et de le reconstruire. Les années 70, donc, c'est les mouvements féministes, les mouvements immigrés, l'autogestion, les premiers mouvements écologistes et le mouvement homo, où les militants et les militantes vont s'inscrire dans l'ensemble de ces mouvements sociaux. C'est-à-dire que on va retrouver le GLH de Mulhouse dans une manifestation à Fessenheim contre la construction d'une centrale nucléaire. On va retrouver le GLH de Lyon sur le plateau du Larzac pour lutter contre l'extension d'un camp militaire. Donc vraiment, on va y avoir cette volonté de s'ouvrir et d'aller irriguer les différents champs de lutte, les différents mouvements sociaux, et y porter une parole homosexuelle. Mais peut-être que la lutte qui va être la plus proche du mouvement homo est celle du mouvement féministe, et où les militants vont développer un espèce de discours de soutien aux luttes féministes. Et à partir de là, vont par exemple développer tout un discours sur la mixité du mouvement, la place des lesbiennes dans le mouvement, mais qui en réalité va faire, en tout cas au cours des années 70, assez long feu, au vu de la misogynie de nombre des garçons.
Quels étaient les liens avec la gauche de l'époque, parfois considérée comme un peu viriliste peut-être ?
Les relations avec la gauche sont particulièrement compliquées. Depuis le phare et son irruption dans le cortège du 1er 1971, le mouvement homosexuel est quand même devenu la bête noire du Parti communiste et de la CGT. Une partie de l'extrême-gauche est relativement ouverte, relativement sensible à ces questions-là. La première organisation politique qui va faire évoluer ses positions, c'est la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, qui va même à partir de 1977 avoir une commission nationale homosexuelle au sein même de son parti. Mais les relations, elles sont compliquées.
À l'époque, les Mao étaient hystériquement anti-homo, donc il n'y avait guère que la Ligue trotskiste qui nous acceptait. Hein.
C'était considéré comme un vice-bourgeois ?
Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, il fallait se battre avec les Mao. Hein. Se battre, déjà, je me souviens en fac, on mettait une affiche et dans les deux minutes après, elle était arrachée, donc on se remettait l'affiche, on se mettait devant et ça cognait, quoi. Ah oui, c'était quand même les Mao, je dois dire que. Bon, j'en ai un mauvais souvenir. Dieu merci, tout ça est fini. Dieu n'ayant rien à voir là-dedans.
Ouais, le 1er mai 75, qui est la première. Le premier mai auquel participe le groupe de libération homosexuelle parisien. Il y a des tensions particulièrement fortes avec le service d'ordre de la CGT. Et c'est particulièrement les féministes, le cortège féministe qui va protéger la banderole homo, en fait.
En parallèle, de l'autre côté de l'Atlantique, la lutte bouillonne. Au mois de juin 1969, à New York, après une énième descente de police au Stonewall Inn, un bar fréquenté par les trans, gays et lesbiennes, notamment racisés et travailleurs du sexe, les habitués se rebellent. S'ensuivent plusieurs nuits de révolte, baptisées émeutes de Stonewall, faisant office de mythe fondateur bien au-delà des États-Unis. Mais avant même les émeutes, inspirées par les luttes contestataires de la fin des années 60, les militants se mobilisent déjà contre la répression policière, parmi lesquels Carl Whitman, auteur du manifeste gay écrit en mai 1969, puis publié début 70, et traduit récemment en français par l'auteur et chercheur indépendant Si Le Cerf Maulepoix.
Est-ce que je peux vous demander de nous décrire l'endroit où on se trouve.
Alors on est dans le jardin de Mémoire des sexualités, rue d'Aix à Marseille. Ce qu'on voit ici, c'est donc plusieurs espaces qui ont eu une grande importance au cours des années précédentes. C'était un jardin qu'on cultivait à plusieurs personnes, on s'y retrouvait régulièrement. C'est un jardin qui a énormément fleuri, donc en fait en printemps quand on venait, en été, c'était couvert de fleurs quoi. Tu t'arrivais, il y avait une sorte de profusion et d'exubérance de fleurs dans tous les sens. Donc c'était vraiment une petite enclave dans la ville quoi. Si le Cerf Maulepoix, auteur et chercheur indépendant. Moi à l'époque j'étais dans l'écriture d'un livre sur les questions des écologies queer, sur les formes d'intersection qui peuvent exister entre des perspectives queer et l'écologie, ou le rapport aux soins du vivant et au vivant. Je trouvais ça enthousiasmant.
Et alors ces recherches sur les mouvements gays et LGBT des années 70, aux États-Unis, elles vous ont amené à vous intéresser à Carl Whitman ?
Carl Whitman, c'est un activiste avant tout qui, comme beaucoup de militants gays du XXe siècle, passe d'abord par des mouvements de la gauche radicale qui a à cœur de s'allier notamment aux luttes antiracistes et aux mouvements pour les droits civiques et notamment au collectif étudiant noir de l'époque. En fait, le mouvement des droits civiques comme l'activisme plus radical noir états-unien influence énormément de jeunes militants dans les années 60. Et donc la filiation en fait avec les stratégies d'action notamment des Black Panthers mais aussi d'autres groupes qui se trouvent à Oakland par exemple et dans la Bay Area, elle est très vite revendiquée dans la deuxième partie des années 60 par des militants radicaux gays. En fait déjà dans le manifeste de Carl Whitman, il évoque explicitement le fait que c'est grâce au mouvement noir notamment que une nouvelle conscience minoritaire, presque une conscience d'une classe à part, se tisse.
San Francisco est un camp de réfugiés pour homosexuels. Ayant fui de tous les coins de la nation, nous y avons trouvé refuge, comme tous les réfugiés, non pas parce que la situation est exceptionnelle ici, mais plutôt parce qu'elle était terrible là-bas. Par dizaines de milliers, nous avons quitté nos petites villes où le fait d'être nous-mêmes menaçait notre travail et tout espoir de mener une vie décente. Nous avons fui les flics qui nous faisaient du chantage, les familles qui nous rejetaient ou se contentaient de nous tolérer. Nous avons été virés de l'armée sous le bruit des tambours, expulsés des écoles, de nos jobs, battus par des voyous et la police. Et nous avons formé un ghetto afin de nous protéger. Car il s'agit bien plus d'un ghetto que d'un territoire libre, puisqu'il leur appartient encore. Des policiers hétéros nous surveillent. Des politiciens hétéros nous gouvernent. Des patrons hétéros nous forcent à nous tenir à carreau. L'économie hétéro nous exploite.
Carl Whitman, il appartient à une frange et une génération aussi de militants, en tout cas un certain courant dans cette génération-là, qui essaye et qui s'interroge sur la possibilité que les gays constituent une classe à part, constituent une minorité parmi d'autres minorités, avec une culture qui leur serait propre, des formes de rapport au monde qui leur seraient propres, et pour certains même vont aller jusqu'à dire en fait une histoire, une forme de, avec une perspective presque transhistorique sur ce qu'on a appelé un homosexuel éternel, ou en tout cas voilà des figures qui auraient traversé les âges et qui auraient toujours cultivé, nourri et été animées par un esprit ou une conscience gay. Et donc Carl Whitman, il va plutôt faire jouer un rôle politique à cette conscience gay en considérant qu'elle s'approfondit en prenant de la distance vis-à-vis des modèles relationnels hétéronormatifs et vis-à-vis aussi d'un certain rapport à la masculinité et à la féminité. Donc il y a un rôle social qui en fait est déjà réclamé par Whitman et par même d'autres avant lui en fait dans les textes des années 50-60 qui commencent à émerger, où justement la sexualité homosexuelle, celle qui échappe à une organisation de la reproduction, va être perçue comme une puissance révolutionnaire.
Le rôle politique alors revendiqué par les militants gays vise une transformation de toute la société. Nourris par l'effervescence des 70s, ils articulent leur émancipation au combat de l'époque. Whitman affirme son soutien aux groupes lesbiens ainsi qu'aux mouvements féministes, dénonce le chauvinisme masculin chez les gays et alerte sur certaines tendances anti-gays du mouvement des femmes. Cellule marxiste du Gay Liberation Front, le groupe Red Butterfly, auquel participe Whitman, est marqué par l'antimilitarisme, la lutte contre la guerre du Vietnam ou les mouvements anti-impérialistes. En 70, des militants gays et lesbiennes participent à une grande convention de la gauche à Chicago, soutenue par Huey Newton, cadre des Black Panthers. La période verra aussi naître des groupes gays noirs et latinos tels que Third World Gay Revolution. En 71, fatigué des tentations de la ville, Whitman s'installe avec son compagnon dans une ferme de l'Oregon.
En fait, Whitman se greffe assez rapidement sur le mouvement de retour à la Terre qu'on a appelé Back to the Land aux États-Unis, qui est un mouvement un peu collectif, communautaire, où il s'agit de vivre en communauté dans un espace rural, loin de la grande ville. Et donc, il participe à la fois à la création d'un espace dans lequel il va planter un jardin avec énormément d'arbres fruitiers. Il va développer aussi toute une pratique de recyclage, de récupération de ses vêtements, etc., de compostage de ses excréments, etc. Et en parallèle, il participe aussi à la création d'un journal, un journal alternatif qui s'appelle RFD. Alors à l'époque, ça s'appelait Rural Free Delivery et puis après Rustic Fairy Dreams. Ça avait plein de noms. Ce journal existe encore. Est devenu depuis le magazine états-unien des faits radicales. Et ce magazine a pour but de faire émerger vraiment une contre-culture gay. Contre-culture gay depuis l'expérience de la ruralité. Il y a des dessins, des poèmes, des recettes de cuisine, des guides pour reprendre sa charpente, des réflexions sur les manières dont on pourrait élever des enfants dans cet espace, des petites annonces de cul. C'est effectivement tisser un autre écosystème, à la fois camarade, affectif, même si très vite Whitman déplore cette difficulté à faire venir les communautés gays dans l'espace de la ruralité.
Sa trajectoire va aussi croiser un autre mouvement qui a à cœur l'émergence d'une nouvelle forme de conscience gay que sont les Radical Fairies.
Dans les années 70, il y a le terme qui commence à émerger qui est celui de « fée », qui est au départ un terme péjoratif pour insulter « the fairy », c'est la pédale efféminée. Et ce terme commence à être réclamé, à la fois pour réclamer le stigmate de l'insulte et le retransformer voilà, en puissance collective, mais aussi pour se renouer avec une dimension spirituelle ou en tout cas presque folklorique et magique. Dans les textes que peut écrire Harry Hay autour de la création des fées, c'est l'idée de renouer évidemment avec une féminité empêchée, entravée. En tout cas de laisser circuler un rapport au genre plus fluide et de s'émanciper de toutes les formes de masculinité ou en tout cas de toxicité masculine qui ont été inculquées de force ou qui ont violenté même l'existence des gays de l'époque. Et donc il y a l'idée à travers ces rassemblements aussi de s'attacher à la fois à renouer avec cette féminité, à en réclamer la puissance et la force et aussi de soigner d'autres modes relationnels. Et donc ça émerge en 79 et l'idée c'est de se rassembler une première fois dans l'Arizona pour tenter de répondre à plusieurs questions, notamment c'est d'où l'on vient. Est-ce que nous aurions une origine? Est-ce qu'il y aurait une origine de l'homosexualité ou en tout cas de cet esprit gay? Et quel rôle social on peut jouer? Donc il y a quand même une visée politique. Et puis ensuite, progressivement, il va y avoir l'achat d'une terre dans l'Oregon, vraiment très très proche de là où vivait Carl Whitman, et qui va voir émerger ce qu'on appelle un sanctuaire. Puis après ce premier sanctuaire vont émerger plein d'autres sanctuaires.
La magie est une de nos plus puissantes alliées dans la lutte contre l'industrialisme patriarcal. En puisant dans la magie, nous puisons dans le pouvoir de défense de la nature elle-même, son correctif de civilisation. Nous donnons des voies d'expression à une force naturelle de correction et d'équilibre qui autrement ne serait même jamais reconnue. Nous sommes de mèche avec les souvenirs de la forêt et avec nos fées intérieures oubliées, désormais reléguées au monde souterrain. Invoquons nos amis, les esprits bannis et interdits de la nature et de nous-mêmes, ainsi que les fantômes de l'Indien, de la sage-femme, du pédé, du magicien noir et de la sorcière. Ils entendront notre appel le plus profond et viendront. À travers nous, les esprits parleront à nouveau.
Arthur Evans, Witchcraft and the Gay Counterculture, 1978.
On constate en, à travers votre travail de recherche sur les mouvements américains qui a une dimension utopique très forte. Et je me demandais en quoi est-ce que cette notion d'utopie, elle vous nourrissait dans le présent ?
L'idée, c'est pas de reproduire le passé. Il y a toujours cette tension. Est-ce qu'on s'en inspire? Est-ce qu'on s'en affranchit? Etc. Et il me semble que poser ça de manière aussi binaire, c'est oublier que quand même, c'est important d'avoir accès à des tentatives collectives qui mettent en jeu aussi la question sexuelle. Et une question sexuelle dans laquelle moi, je peux me retrouver en tant que gay. De me dire qu'en fait, d'autres avant moi, quand bien même ils se définissaient sans doute gays d'une manière un peu différente de la mienne, ont voulu penser quelque chose de collectif depuis d'autres espaces, ont voulu rêver et mettre en acte d'autres modes d'organisation qui ne seraient pas seulement ceux qui nous sont plus ou moins imposés aussi par nos modes de vie actuels et que selon moi, voilà, à un endroit radicalement différent de celui des années 70. Donc il y a quelque chose de plutôt d'aller capter une énergie, des énergies qui avait été laissé aussi un peu en terre et que l'idée c'est d'aller s'emparer de ces énergies en suspens. Moi c'est là-dessus que j'irai plus naturellement.
En France, à la fin des années 70, le mouvement prend un tournant culturel et social, voyant naître le journal Guépier ainsi que des radios pirates. L'approche des années 80 et le triomphe néolibéral signent progressivement la fin des utopies. Les groupes de libération homosexuelle gauchiste s'usent et vont se fondre au sein du CUAR, Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, plus mixte que les GLS. Fondé en 79 pour faire face à un retour perçu de la répression sous Valéry Giscard d'Estaing, le CUAR coordonne les groupes régionaux à un niveau national pour faire campagne contre le harcèlement policier et les discriminations juridiques.
Peut-être le moment qui mérite d'être raconté, le moment fort, c'est la marche du 4 avril 1981.
Mathias Quéré, historien.
Dans les récits qu'en font les militants et les militantes, c'est vraiment un jour qui va les marquer, qui va les bouleverser, qui va changer leur vie. Il va y avoir plus de 10 000 personnes qui vont marcher dans les rues de Paris et terminer Place Beaubourg, et qui a donné cette manifestation, cette première manifestation, la plus grande manifestation finalement, même d'Europe occidentale, en défense aux homosexuels et aux lesbiennes.
Et puis une autre marche, cet après-midi également à Paris, organisée cette fois-ci par des homosexuels. Les participants reprochent à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, de ranger l'homosexualité dans la catégorie des troubles mentaux. Ils estiment également que la loi française est beaucoup trop répressive à leur égard, puisqu'elle interdit toute relation homosexuelle avant 18 ans, ce qui n'est pas le cas pour les hétérosexuels.
Les gens nous applaudissaient quand même sur les trottoirs, c'était sympathique ça. Il y a beaucoup de monde qui regardait, certaines qui osaient nous rejoindre, et puis quand même beaucoup qui applaudissaient.
Alain Lecoultre, ancien militant des GLS.
Il y a eu une sympathie à l'époque, bon c'était à Paris, il est vrai, mais enfin quand même, c'est à noter.
Et pourquoi s'arrête le CUAR ?
Principalement, si le CUAR s'éteint, ça va bien être du fait de l'épidémie du VIH-SIDA, qui à partir de 1986 bascule vraiment dans l'horreur. C'est-à-dire que le nombre de malades se multiplie tous les 3 mois. En 1986, je crois, on est à plus de 6000 malades du sida déjà. Et en fait, il y a une toute autre urgence pour les militants et les militantes. Là, il s'agit de rester en vie, de s'occuper de soi, de s'occuper de ses proches. Et la sidération du moment va faire que la perspective revendicative du QR telle qu'elle avait été formulée au début des années 80 ne fait plus sens. La première association de lutte contre le sida, elle s'appelle Vaincre le sida, elle est fondée en 1983, elle est fondée par des militants liés au mouvement homosexuel, 84 AIDS, lors de l'UH de 1985, c'est un moment assez tragique, il y a Daniel Defer donc qui vient faire une conférence devant à peu près 500 personnes, et il va dire d'ici à quelques années, la moitié d'entre vous seront morts. Et ça a été, enfin c'est effectivement ce qui s'est passé. Et pour ceux, celles qui étaient présents, qui ont assisté à ce moment et qui ont pu me le raconter par la suite, un effet de sidération totale, le sentiment de, ouais, que leur monde s'effondrait.
On passait le plus gros de notre temps avec les copains qui étaient malades, pour les aider, ne serait-ce que matériellement, par exemple. Et puis ensuite, on se retrouvait à l'enterrement, donc on peut pas dire que c'était une période très exaltante, et c'était d'autant moins pour moi, par exemple, que je savais que Jean-Pierre, lui aussi, était condamné, et que j'allais être confronté à la même chose. Donc ce n'était pas très gai, effectivement. Bon, c'est ainsi.
France Inter, 8h. Le journal de Gérard Courchel. Bonjour Gérard.
Bonjour. Les chercheurs américains auraient isolé le virus du sida, cette maladie qui se traduit par l'effondrement des défenses immunitaires.
La perspective de savoir que notre horizon ne se calcule plus en années, mais à partir du moment où on est malade, il se calcule en quelques mois, ça change radicalement des perspectives de vie. Et maintenir des revendications telles que le mouvement les a portées tout au long des années 70 et au début des années 80 ne fait absolument plus sens. Et donc il y a aussi une dynamique qui est celle de vivre le présent, de vivre l'instant, parce qu'on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait.
Causant en quelques années la mort de nombreux militants et intellectuels gays, en poussant même certains, terrorisés, à mettre fin à leur jour, le sida va transformer radicalement les horizons du militantisme gay. Première population touchée par l'épidémie en Occident, menacée d'extinction, la communauté gay se retrouve à l'avant-poste de la lutte. Après le Gay Men's Health Crisis en 82, Larry Kramer fonda ACT UP à New York en 87, d'où des activistes gays lanceront Queer Nation en 90. En France, suite au décès de son compagnon Michel Foucault, Daniel Defer crée AIDS en 1984. En 89, trois journalistes gays fondent ACT UP Paris, parmi lesquels Didier Lestrade, journaliste et militant, sert au pot depuis 86. Si les rêves du grand soir paraissent désormais lointains, la lutte contre ce virus révélateur des inégalités va redonner au militantisme homosexuel de nouveaux horizons radicaux, retisser des coalitions.
ACT UP, c'est le nom d'une organisation humanitaire luttant contre le sida, prend en quelques minutes possession du bitume. La vingtaine de manifestants se couche devant l'entrée de la rue qui conduit au domicile privé du président de la République à la surprise générale. Cette spontanéité a un objectif.
Pour interpeller François Mitterrand qui n'a jamais pris position depuis 10 ans sur le sida. Et son silence est meurtrier dans la mesure où il n'entraîne pas avec lui toute la population française à se mobiliser contre ce fléau.
L'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, a déclaré hier que depuis l'identification du virus du sida, 8 à 10 millions de personnes auraient été infectées. Difficile de continuer de penser dans ces conditions que tout le monde n'est pas concerné.
ACT UP a changé beaucoup de choses, mais quand même le modèle venait des États-Unis, hein, on n'a rien inventé.
Didier Lestrade.
ACT UP aux États-Unis à New York était né 2 ans auparavant, en 87, a tout de suite essaimé à travers les États-Unis et en Europe. On a utilisé une matrice qu'on a adaptée à l'esprit français, qui n'était pas si facile que ça, parce que beaucoup de choses dans la culture française étaient contre l'esprit actopien. Cette idée de, justement, de communauté, le côté universaliste de la France, le côté, cette réticence un peu libertarienne, libertaire de discipline. D'attendre son tour pour parler de réunion, de démocratie directe. Hein, ça n'existait pas, en fait. Hein, avant ACT UP, les groupes associatifs gays, c'était le bordel. Mais comme les gens ont compris tout de suite le concept d'ACT UP, parce que quand même, c'était tellement facile à comprendre, des gens qui descendent dans la rue, des gays, des lesbiennes qui descendent dans la rue avec des pancartes pour critiquer le gouvernement, les institutions, que je crois que ACT UP a servi de groupe de formation pour une génération. Il y a une fusion qui n'existait pas avant, surtout entre les gays et les lesbiennes. De toute façon, ACT UP a toujours été multicéphale. Hein. Les commissions qu'on faisait, prison, toxico, commission médicale, femmes et tout ça, c'était des groupes d'affinité. Je crois que ça a été un point de convergence politique qui est un exemple aujourd'hui. Et puis quand même, il y avait à travers les travaux pratiques d'ACT UP quelque chose qui rassemblait les gens. Par exemple, quelqu'un qui pouvait être faire partie des intellos d'ACT UP pouvait se retrouver avec les prolos d'ACT UP pour coller les affiches sur les pancartes. Le travail manuel à ACT UP était vraiment un truc d'intersectionnalité. Mais c'est vrai que le mot n'existait pas. On parlait d'outreach. Pour nous, l'outreach, c'était une manière de sortir de notre condition socio-culturelle pour aller au-devant des gens qui n'étaient pas comme nous. Je crois qu'ACT UP aurait pu être plus divers. ACT UP, au début, était un groupe plutôt blanc. On n'est pas arrivé à attirer la banlieue avec nous. Parce que qu'est-ce qui se passait dans les banlieues à cette époque-là? C'était vraiment la mort de tous les toxicos des cités qui s'étaient contaminés dans les années 80. Je crois pas que AIDS ou ACT UP ne pouvait les aider à ce moment-là, tellement que la séparation était totale par rapport au sida.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'ACT UP dont vous êtes fier?
ACT UP a diffusé ses modes d'action dans l'ensemble du monde associatif et surtout dans l'écologie. Même les groupes syndicaux ont repris beaucoup d'idées venant d'ACT UP, comme les cercueils, les trucs comme ça, les cornes de brume, les sifflets. Il y avait bien sûr ça avant nous, mais je crois qu'on l'a vraiment mis au devant. Et je crois que la théâtralisation du militantisme de rue, c'est vraiment ACT UP qui l'a apporté. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a une telle réponse policière du gouvernement vis-à-vis de, par exemple, ce qui se passe sur les bassines, etc., où on se trouve face à un champ de bataille. Et puis cette idée de traiter les écolos d'éco-terroristes, c'est quelque chose de complètement hallucinant. Alors qu'est-ce qu'on serait, nous, si on faisait ACT UP aujourd'hui? On serait des sida-terroristes, on était des activistes, des militants. C'est pas parce qu'on est militant qu'on devient terroriste, enfin. C'est la désobéissance civile est un droit élémentaire. On a le droit de descendre dans la rue avec le drapeau palestinien et avec un keffieh. C'est quand même incroyable, cette société d'extrême droite qui maintenant vous juge dès que vous descendez dans la rue et qui vous fait tabasser par des flics. C'est affreux, quoi.
Les hétéros ne feront pas ça volontairement. Donc ils doivent être forcés à le faire. Nous devons les forcer par la peur. Nous devons les terroriser. La peur est la plus puissante des motivations. Personne ne va nous donner ce qui nous revient. Les droits ne sont pas accordés, ils sont pris, par la force si nécessaire. Il est plus facile de se battre quand on connaît son ennemi. Les hétéros sont ton ennemi. Ils sont ton ennemi lorsqu'ils ne reconnaissent pas ton invisibilité et soutiennent une culture qui te tue.
Manifeste de Queer Nation, 1990.
Vous êtes très engagé aujourd'hui sur la question des archives. Pourquoi c'est un enjeu crucial pour vous ?
Parce que j'ai fini aussi par comprendre que tout ça, c'était politique. C'est-à-dire, il y a toujours pas d'archives en France sur la guerre d'Algérie, il y a toujours pas d'archives sur le passé colonial de la France. Et donc, les archives sur le sida font partie de ces archives qu'on essaye de faire disparaître avec chaque année des personnes qui meurent et qui jettent à la poubelle tout ce qu'ils ont comme souvenir. Et moi-même, j'ai déménagé 2 fois en l'espace de 10 ans. Et le dernier déménagement que j'ai fait en 2017, j'ai dû jeter mais des cartons entiers de compte rendu, de RH, d'ACT UP, etc. Ça m'a crevé le cœur. Je n'avais personne chez qui je pouvais, à qui je pouvais donner ça. Je n'ai pas besoin, en tant que personne âgée, d'avoir ces choses chez moi.
Attends, là, t'es en train d'ouvrir donc une très grande pochette cartonnée.
Ouais, un grand classeur blanc dans lequel il y a à peu près 200 photos. La plupart, je pense qu'elles datent des années 70 ou 80. C'est des photos essentiellement d'amis, d'amants de Daniel Guérin. Il les prenait comme modèle et il en prenait plein de photos. Et du coup, il a légué avec ses photos des petits descriptifs. Généralement, c'est essentiellement des prénoms, parfois quelques anecdotes rigolotes. Il y a des commentaires par page. Et donc, c'est un document qu'il a fait, à ma connaissance, justement, en vue de donner ses photos, quoi. De commenter.
Ouais, on peut lire des petits bouts, quoi.
Nick, culturiste, presque trop parfait, nul sexuellement. Alex faisait le gigolo cours Mirabeau à Aix, complaisant. Groupe d'Autrichiens fraternels. Ça, c'est pour la page 22, par exemple.
On est à Marseille, dans les locaux de l'association Mémoire des Sexualités, dans un appartement au 3e étage d'un immeuble d'habitation.
Loupa.
Ça, c'est la salle de lecture, mais qui s'ouvre sur une alcôve dans laquelle sont rangées plusieurs étagères, le plus possible, parce qu'on a beaucoup d'archives à Et du coup, sur ces étagères, on retrouve à la fois des cartons qui contiennent des papiers, des photos, mais aussi des cassettes audio et des objets, notamment des codes Miché de taille très imposante.
On se définit comme un centre d'archives communautaire.
François.
Et donc l'enjeu, c'est que à la fois les archives soient celles des personnes LGBT, mais aussi par les personnes LGBT, et qu'on crée des liens intergénérationnels quand c'est des personnes plus âgées, parce qu'il y a aussi des personnes qui nous donnent des archives qui sont plus jeunes.
Et donc là, votre boulot, c'est de répertorier toutes les photos.
L'idée là, ce serait un petit peu de voir comment on peut reconditionner cet album, qui du coup a au moins 40 ans, et on aimerait le reconditionner pour qu'il puisse durer un peu plus dans le temps et que ça, les photos s'abîment pas, quoi. Mmh. Et l'idée de l'atelier, c'était de retravailler sur ces photos et de les reconditionner. Daniel Guérin, c'est un écrivain, un anarchiste, anticolonialiste, assez précurseur. Une personne qui s'est toujours liée aux jeunes des différentes générations qu'il a traversées. Ce qui a fait qu'il a rencontré, au moment de toute l'ébullition du mouvement homosexuel et LGBT des années 60-70, il a rencontré aussi le mouvement, lui-même étant homosexuel, son père aussi. Du coup, il a un peu rencontré ces luttes-là aussi, et il s'est investi dans ces combats-là. Et il a écrit une anthologie sur l'anarchisme, enfin voilà.
On a vraiment besoin de conserver un peu une vision de ce que ça pouvait être d'être PD, par exemple, là, en l'occurrence, première moitié, deuxième moitié du XXe siècle.
Julou.
On constate aussi, les années avançant, que si c'est pas nous qui le faisons, en fait, c'est pas forcément pris en charge, ou alors c'est pris en charge un peu par-dessus la jambe, comme souvent quand il s'agit de sujets TPBG, en fait, c'est souvent TransPD Big Win.
Je me dis que c'est un travail très fastidieux. Et qu'est-ce qui vous a amené individuellement à faire ça? Pourquoi c'est important pour vous, cette quête de mémoire et cette préservation?
C'est du rangement, beaucoup. C'est remplir des tableaux Excel avec des infos, des métadonnées. Mais en même temps, derrière, il y a quand même la préservation de quelque chose qui est fondamental pour se comprendre soi aussi et pour se comprendre nous en tant que communauté au pluriel.
Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'histoire homosexuelle au collège, au lycée ou même à la fac. Et donc, ouais, c'est vraiment dans ce genre de lieu, à mon avis, que ce travail peut se faire. C'est vrai que c'est pas des thématiques qui sont hyper qui intéressent beaucoup les institutions publiques.
You can tell me exactly how you started to get involved with the GLF and...
Okay, that's easy. I got involved with the Gay Liberation Front. Well, should I first say my name and stuff like that?
Yeah, sure. Okay. It's going to be as a conversation in okay. In the film, so okay. Really
okay. Okay, well, I'm Perry Brass.
Quand je suis devenu PD, j'ai cherché sans relâche les fantômes de ceux qui avaient vécu avant moi, pouvaient m'aider à mieux comprendre quelle était ma place dans le monde. Contrairement à d'autres communautés ou minorités politiques, chaque personne homosexuelle ou trans est souvent la première de son environnement et doit chercher sa généalogie à la marge de l'histoire officielle. Comment alors accéder aux récits de nos aînés, fragments de mémoire fragiles en lutte perpétuelle contre l'effacement? Comment se transmet le souvenir des luttes LGBTI quand celles-ci ne sont pas jugées dignes d'intégrer les manuels scolaires? Savoir ce que l'on doit aux générations passées, faire vivre ces mémoires et leurs transmissions, rendre visibles les récits des minorités dans la minorité, c'est ce que fait le cinéaste expérimental et programmateur Stéphane Gérard. Dans son film « Rien n'oblige à répéter l'histoire », réalisé en 2014 à New York, il a interrogé des militants des années 70 et 90 autour de ces enjeux.
Will admit he was not actually at Stonewall.
Il y a un personnage de votre film qui, de Rien n'oblige à répéter l'histoire, qui dit « Un jour, le sida aura disparu et il faudra que les gens sachent que certaines personnes ont dû se battre et qu'elles y ont aussi laissé leur vie. » Quelqu'un d'autre répond un peu plus tard « Act Up a été totalement oublié pendant des années. » Est-ce que, justement, à cet endroit de la lutte contre le sida, il y avait un risque d'effacement et d'oubli particulier ?
Sarah Schulman a donné une interview
qui m'a beaucoup inspiré, qui était en fait à l'origine du ACT UP Oral History Project, donc le projet d'histoire orale d'ACT UP qu'elle a cofondé avec Jim Hubbard, qui collecte des entretiens d'anciens, anciennes militants et militantes d'ACT UP à New York. Et en fait, le point de départ de ce projet, c'était d'écouter à la radio un jour une espèce de résumé de la période militante de la lutte contre le sida, dans lequel on racontait que les pouvoirs publics et gouvernementaux ont un jour tout seul compris que c'était une crise importante. Et donc elle se souvient des années de lutte face au silence et l'inactivité du gouvernement états-unien sur ces questions. Et elle se dit, en fait, là, il y a un travail d'effacement. Il y a un projet de l'idéologie dominante de vouloir réécrire l'histoire d'une façon qui les arrange. Et je pense qu'il est là le danger, en fait. C'est ce qu'elle théorise dans son livre « La gentrification de l'esprit », « The gentrification of the mind », comme un travail de gentrification de l'histoire, du coup de réécriture de cette histoire, du coup à la faveur de l'idéologie dominante et au détriment du travail de nos communautés, ce qui définit pourquoi elles sont minoritaires.
On parlait du mythe de Stonewall. Est-ce que votre travail, il vise aussi à lutter contre des formes de mythification au sein des communautés queer de leur propre histoire? Quelle place prend le mythe et dans l'histoire LGBT et dans votre travail?
On sait maintenant, et c'est tout à fait documenté dans le mouvement états-unien, qu'il existait des groupes militants politiques avant Stonewall, qui avaient eu déjà des actions avant, et qu'il y en a d'autres ensuite après qui feront écho à celle-là. Mais c'est un mythe qui synthétise toute une période. Voilà. Ce qui m'intéresse... Et la raison pour laquelle je l'ai gardé pour le film, c'est que c'est un mythe qui, derrière, inspire énormément d'autres mobilisations, qui résonnent de façon internationale et qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent à rappeler les communautés LGBT, queer, transpédéguines à leur nature politique. Et donc, en ça, le mythe me semble important. Mais je trouve que dans l'écriture de l'histoire, il y a aussi cet enjeu de pas laisser les icônes, les idoles nous éblouir et de se rappeler aussi que l'histoire est toujours plus complexe qu'elle en a l'air, que en fait des événements comme ceux-là sont le résultat de justement d'une pluralité d'initiatives et d'ambitions qui sont peut-être pas tout aussi spectaculaires. Et un des risques justement de l'histoire, c'est de ne retenir que l'histoire des vainqueurs, alors qu'en fait l'histoire des positions minoritaires permet aussi de préciser nos victoires, de donner une ambition. Enfin voilà, c'est aussi ça qui crée une émulation collective et qui nous mène vers ces victoires politiques justement.
Je l'ai dit auparavant et ça devient de nouveau vrai en ce moment. Chaque fois que je suis seul, par exemple sans petit copain, mon travestissement devient plus sérieux et constant. Dans ma recherche du compagnon masculin idéal, je me trouve moi-même. Dans mon besoin d'un homme dans mon lit, je me détache de mon corps et mon corps devient le sien. Je caresse ses cheveux, je vois son poignet. Je sens des vents chauds gonfler ma chemise ouverte par-dessus mon torse doux, dur et plat. J'attrape les regards affamés d'un autre beau jeune homme. J'envisage à nouveau les hormones masculines, essayant de me souvenir pourquoi j'ai décidé de ne pas en prendre la dernière fois.
Journal de Lou Sullivan, entre 77 et 80.
Lou Sullivan est un militant trans-gay qui a... une place très importante dans la création de la communauté transmasculine aux États-Unis, dans les droits trans, et aussi de manière plus générale, il fait partie des fondateurs du centre d'archives LGBT de San Francisco.
Lorraine, membre de Transfactrad.
Il est mort du sida, et une des phrases qu'on retient énormément de lui, c'est qu'il a dit que il a envoyé un courrier à tous les médecins et personnes qui lui ont mis des bâtons dans les roues pour sa transition parce qu'il était, il voulait devenir un homme gay.
C'est un truc genre, vous me disiez que je pouvais pas devenir un homme gay, bah on dirait que je vais mourir comme un homme gay en fait.
Oui, c'était, je pourrais pas vivre comme un homme gay, mais je mourrais en tant que tel.
Je sais qu'il est carrément allé en personne à la clinique de genre.
Micha.
Qui lui a refusé maintes et maintes fois ses opérations, sa transition. Il est allé en personne et il leur a dit ça. Et c'est vrai que c'est un peu une de ces phrases qui est énormément retenue parce qu'elle est très forte.
Souvent, en fait, quand on trouve des archives trans-PD, c'est vraiment par pur hasard ou quand on va sur un événement PD. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment en cercle fermé. J'ai l'impression que les trucs qu'on arrive à plus facilement trouver, genre qui restent des archives visibles, c'est souvent plus des archives trans qui parlent juste de transition ou d'être trans et hétéro.
Plus on se plonge dans les archives trans-PD, bon, notamment états-uniennes,
Noé.
Plus en fait on voit l'importance que Lou Sullivan a eue dans sa communauté. En fait, j'ai l'impression moi que j'ai traduit genre 4 textes différents au moins de 4 personnes différentes qui disent je pensais que j'étais tout seul et un jour je suis tombé sur un flyer de Lou ou je suis tombé sur où on m'a parlé de Lou Sullivan et là d'un coup je me suis senti moins seul et en fait ouais apparemment c'était quelqu'un qui humainement a eu beaucoup d'impact sur sur la communauté en fait trans masculine mais aussi d'autres personnes d'autres hommes trans gays. C'est assez frappant pour nous parce que on a l'impression qu'il y a pas d'hommes trans gays, que c'est un truc récent et en fait bah voilà lui c'est le fondateur de la première association transmasculine, donc pour les hommes trans. C'est devenu plus tard FTM International, mais à l'époque ça s'appelait FTM, Female to Male. Hommes trans, personnes transmasculines, on dirait aujourd'hui. Et c'était juste des moments pour se retrouver entre transsexuels et travestis, quoi. Donc, ouais, c'était un homme gay, quoi. Et en fait, il y a aussi ce truc que, bah, c'est un des gros noms de l'histoire trans états-unienne. Mais c'est pas un des gros noms qu'on retient, bah, notamment parce qu'il est mort en fait dans les années 90, comme beaucoup d'hommes gays et de personnes trans. Et en fait, il a écrit un journal tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. Et ce journal, il voulait le publier, mais il n'a pas eu le temps de le finir, de l'éditer avant sa mort. Et du coup, c'est un projet qui a été repris par plein de collectifs différents, plein de personnes différentes depuis bah, les années 90, il est mort en 91. Et ça a été réussi par deux personnes, donc Ellis Martin et Zach Osma, deux trans-PD américains. Et du coup, ça a été publié en 2019, il me semble, dans un recueil qui s'appelle We Both Laughed in Pleasure. Et on est plusieurs trans-PD français, en fait, à avoir pu le lire et trouver que c'était un document hyper précieux d'archives communautaires, d'histoire, en fait, trans et trans-PD, et d'histoire PD, et d'histoire, juste de l'histoire de ses repos, en fait, aussi. Et voilà, et du coup, le Transfactrad, ça s'est aussi créé dans l'idée de traduire notamment les journaux de Lou Sullivan. C'est à ça qu'on s'attelle. Et c'était aussi un peu un heurt des archives. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'affectionne beaucoup, on se reconnaît beaucoup en lui. Il a donné toutes ses affaires personnelles aux archives GLBT de San Francisco. Avec Micha, on est allé aux archives de San Francisco, on a pu fouiller dans ses papiers et en fait, c'était vraiment un heure de... On a l'impression qu'il a passé des heures dans des bibliothèques pour chercher des traces de personnes trans dans l'histoire. Il avait des cartons et des cartons entiers de recherches personnelles, d'extraits de journaux, de papiers et tout sur des personnes transmasculines dans l'histoire. Il a publié des histoires d'hommes trans gays comme lui qui existaient dans l'histoire.
On retrouve aussi beaucoup de courriers, d'échanges avec tous les grands noms de psychiatres qui étaient sur les questions de genre et de sexualité. Il a beaucoup échangé avec eux.
Et du coup, en effet, vers la fin de sa vie, en fait, même quand on fouille dans ses archives, on voit qu'il faisait beaucoup d'éducation, même à la fin. Il était extrêmement crevé. À quelques mois de sa mort, en fait, des suites du sida, bah, en fait, il était en train d'intervenir dans des conférences parce que voilà, c'était important pour lui de visibiliser son parcours.
Je m'appelle Sido Lansari, je suis artiste plasticien et cinéaste. Je suis né et j'ai grandi à Casablanca, au Maroc. Je suis arrivé en France pour la première fois quand j'avais 20 ans. Je suis resté 5 ans en France et je suis retourné au Maroc où j'ai travaillé et dirigé dans un lieu de cinéma qui s'appelle la Cinémathèque de Tanger, à Tanger, donc dans le nord du Maroc. Et je suis revenu ici en France il y a un an et demi maintenant. On se trouve à la galerie Presse de la Valade, qui est une galerie dans le 3e arrondissement à Paris, qui reçoit pendant quelques semaines les artistes primés au prix Utopie, qui est un prix d'art contemporain qui récompense les artistes dans la pratique ou eux-mêmes sont LGBTQIA+.
Et derrière nous, une installation qui est la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît ?
C'est une pièce qui prend forme de drapeau ou de rideau avec du texte imprimé en sublimation sur de la mousseline. Et en fait, son contenu est un manifeste qui a été écrit dans les années 80 par un groupe de militants et militantes qui se définissaient comme homosexuels arabes, originaires de pays arabes. J'ai fait la découverte de ce groupe dans une petite annonce dans un journal qui s'appelle Le Guépier de 1982. Et au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombé sur une sorte de bulletin que ce groupe a publié en 83. Et ce bulletin commençait par une page éditoriale où était écrit ce manifeste.
Nous, hommes et femmes immigrés en France et d'origine arabo-berbère, ne voulons plus nous marginaliser plus que ce que nous impose notre condition. Avons décidé de nous rencontrer, de nous connaître pour tisser entre nous et les autres un véritable lien. Un lahazem. Pour exprimer notre solidarité et mieux vivre nos sexualités. Déracinés, parfois déchirés entre deux cultures, et noyés dans une société dont les valeurs socioculturelles sont très différentes des nôtres, nous avons ressenti le besoin de nous regrouper. Pour mieux exprimer nos réalités, pour mieux vivre nos différences, nos joies, nos amours et nos espoirs.
En fait, on comprend vite que le rassemblement initialement a été fait pour contrer les petites annonces qui étaient dans Le Guépier ou dans d'autres journaux comme Libération par exemple. Et dans ces petites annonces, on retrouve souvent des personnes, des mecs précisément, qui cherchent du sexe et qui cherchent du sexe avec des personnes arabes ou noires et toujours en les fétichisant, c'est-à-dire en leur donnant des attributs surproportionnés physiques ou sociaux, etc. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage du phare dans la manière d'écrire, dans la manière de se positionner, dans la manière de s'appeler camarade de Marseille. Ici, c'est plutôt présenté comme une réponse, en fait, ou une des réponses de ce mouvement-là. Voilà ce qu'on rejette et voilà ce qu'on porte comme valeur. Parce que dans le texte qu'on voit en face de nous, ça se finit quand même par une phrase qui dit « Notre plus grand souhait est que l'Assam soit une modeste contribution à la construction de ce grandiose ensemble ». Il y a des alternatives, il n'y a pas que le rejet, ou il n'y a pas que la dénonciation, mais il y a aussi des valeurs qui ont été portées par ce mouvement qui sont peut-être intéressantes.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'Azam ?
L'Azam, donc, c'est le nom de ce mouvement qui a existé, d'après mes recherches, à partir de août 82. Et je perds trace donc, de ce groupe début 84. Et en arabe, l'Azam veut dire la ceinture, plus particulièrement une ceinture de mariage. En fait, c'est vraiment un travail de fourmi que j'ai essayé de faire. Il faut savoir que dans tous les documents de l'histoire avec H, de l'homosexualité en France, etc., il n'y a pas mention de ce groupe-là. On connaît les premiers rassemblements homosexuels de personnes d'origine arabe à partir de 96-97. Et donc moi, là, je découvre avec cette petite annonce à la base qu'il y a eu une première tentative en 82. Et de fil en aiguille, vraiment, par exemple, en parcourant énormément de revues et de magazines, page par page, parce que forcément c'est pas des choses numérisées, c'est pas des choses dans lesquelles on peut se retrouver facilement, que j'ai pu reconstituer plus ou moins le parcours de ce groupe. Évidemment aussi en contactant énormément de gens, il y en a qui en ont un vague souvenir, il y en a qui n'en ont jamais entendu parler, sachant que les personnes qui étaient souvent... Enfin, ils utilisaient que leur prénom, par exemple. Très probablement, il y avait des pseudonymes aussi. Donc forcément, c'est compliqué, en fait, de retrouver quelqu'un de vivant ou de quelqu'un qui peut aujourd'hui se revendiquer de son mouvement.
Samy était un jeune homme d'une trentaine d'années. Grand, fin et chevelu. Ses cheveux étaient si noirs, si épais qu'il disait « ça impressionne mes amants ». Il aimait son prénom, assez pour saisir toute occasion de le préciser. Phonétiquement, c'est un prénom affranchi de toute virilité, et il était parfois preneur de dérivés féminins, Samia ou Soumeya. Mais sa préférée, c'était Samira, Samira bin Saïd. Il aimait dire « c'est la plus grande artiste de la patrie ».
Song 4, sung by Samira bin Saïd. Message d'amour.
Votre travail, il consiste aussi en la réalisation de films et parfois d'œuvres de fiction. Est-ce que face à la difficulté de trouver des fragments d'histoire qui seraient assez conséquents pour composer un récit, est-ce que le recours à la fiction permet de combler ce manque-là ?
Oui, forcément, parce que il y a eu beaucoup de pertes hein, quand même dans ces archives. C'est-à-dire que, et moi je continue à faire des découvertes aussi, mais le problème vient aussi qu'il n'y a pas vraiment d'archives officielles avec l'argent nécessaire pour préserver ces documents-là et ces mémoires-là. Mais forcément, on est obligé d'avoir recours à de la fiction et à imaginer ou fabriquer en fait nos propres archives pour s'inventer une mémoire. Les trouvailles que je fais, par exemple, sont très dispersées en fait à droite à gauche et comment on peut leur donner forme et pas nécessairement une forme scientifique ou pas nécessairement une forme historique, mais comment on peut les transmettre. Donc en fabriquant des histoires qui viennent d'à droite à gauche, les mettant en résonance aussi avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et aussi l'idée, c'est de dire en fait qu'on n'a strictement rien inventé aujourd'hui. Quand on parle, par exemple, de groupes en non-mixité ou de wokisme ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui existe depuis les années 80 et c'est ce que j'essaie un petit peu de dire dans ce travail-là. Donc forcément, la fiction est un formidable outil pour ça, et plus précisément la fiction dans le cinéma.
Ce que peut-être l'épidémie a fait à cette histoire, c'est qu'il n'y a pas eu de transmission de cette histoire. Nos imaginaires vont bien plus s'orienter, vont bien plus se tourner vers Stonewall et l'outre-Atlantique plutôt que les cortèges du phare du 1er mai ou les cortèges des GLH du 1er mai 75 à Paris, par exemple.
Mathias Quéré, historien.
Si on avait eu cette transmission historique de cette génération-là, peut-être que nos mobilisations, nos luttes aujourd'hui, elles ressembleraient à autre chose. Mais cette génération, elle a été décimée, elle n'était pas là pour nous la raconter.
En revoyant Rien n'oblige à répéter l'histoire aussi, j'ai été assez frappé par la dimension utopique très forte qui revient. C'est un thème, l'utopie, qui traverse les époques. J'ai l'impression qu'il est question aussi à un moment d'un imaginaire utopique perdu à certains endroits. Et je me demandais quelle est la place de l'utopie dans ce film et dans votre recherche à vous de mémoire.
Ouais, je sais pas si c'est perdu. Hein. Je pense qu'en France, mais aux États-Unis aussi, en tout cas, on idéalise beaucoup les années 70, ces années rouges politiquement, y compris sur les questions de genre et de sexualité, qu'elles ont représenté une espèce d'immensité des possibles, où d'un coup, tout le monde croyait sincèrement pouvoir littéralement révolutionner la société.
Stéphane Gérard.
Et puis, il y a eu la douche froide des années 80, la chute du mur, l'épidémie de sida pour ce qui concerne plus directement et aussi très violemment les PD. Et que quelque part, ces imaginaires, ces objectifs, ces ambitions ont été soit revus à la baisse, soit on s'y autorisait plus, ou avec un sentiment de désenchantement. Bon, ça, c'est un des récits. Je pense malheureusement aussi qu'on ne s'autorise plus à avoir la même ambition. Et du coup, il y a un enjeu à rappeler que c'était possible d'avoir des rêves démesurés, ou qui ne l'étaient pas en fait, qui étaient juste à la mesure de ce qu'on peut vouloir pour nos propres vies et qui nous appartiennent et dont on devrait être capable de décider de comment elles vont se déployer. Et j'aime l'idée de pouvoir, pour moi-même, désirer ça à nouveau, le souhaiter aux autres aussi.
Merci à Mathias Quéré, à Alain Lecoultre, à Cyril Sermolpois, à Didier Lestrade, à Mémoire des Sexualités, à Stéphane Gérard, au collectif Transfactrad et à Stido Lansari. Lecture, Martin Dust et Nance Laborde-Jourda. Prise de son, Gilles Gallinaro et Guillaume Ledu.
Mixage, Éric Boisset.
Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Pierre Pinault. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. PD, Réinventer le monde, des mémoires révolutionnaires perdues, un documentaire de Camille Desombre, réalisé par Gilles Blanchard. À suivre, PD, Réinventer le monde, écrire PD au pluriel. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.